Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 171e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 21 novembre, journée du Beaujolais nouveau, n'est-ce pas Bruno ?
Oh oui, j'en suis à mon cinquième verre.
Et nous allons vous présenter les sorties comics de la semaine. Semaine avec une grosse sortie très attendue chez DC, c'était ce fameux Harley Quinn numéro 0. Nous parlerons aussi de Forever Evil. En indé, la suite de The Wake, un projet Archie. Et enfin, nous terminerons avec Marvel, la suite d'Infinity, les retombées de Cataclysme ou encore Spider-Man qui se déchaîne. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Moi pour vous présenter tous ces nouveaux comics, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Alias le pochetron.
Mais non. Faut profiter de la soirée quand même.
On te taquine. Nous avons aussi Valentin.
Hello les gens.
Et Mister René Bunny.
Oui, bonsoir les filles. Voilà. Et je vous rappelle que j'ai un
pervers.
Hashtag. Mon melon est plus gros que celui d'Alain Delon.
Ça va être très difficile de commencer. Quoique, finalement, nous sommes dans un ton complètement décalé, ce qui correspond bien avec cette grosse sortie très attendue chez DC. J'en parlais en intro, c'est le Harley Quinn numéro 0. Bruno, tu vas nous le résumer, si c'est possible.
Oui. Ah bah, ça va être. Enfin, j'ai déjà commencé par les crédits. Ça va... Donc, c'est écrit par Amanda Connor et Jimmy Palmiotti, avec des dessins de Charlie Adlar, Amanda Connor, Art Balthazar, Becky Cloonan, Darwin Cook, Tony Daniel, Sam Kiss, Bruce Timm, Jim Lee, Stephen Roux, Trad Moore, Chan Ardin, Adam Hughes, Dave Johnson, Dan Panosian, Jeremy Roberts et Walter Simonson. Donc, quand même, une brochette d'artistes. Plutôt bonne, on va dire.
Sauf que tu nous as cité ceux qui sont sur la cover qui ne sont pas l'ordre intérieur. Et ça, Bruno,
Exactement. C'est
impardonnable.
Mais
donc
voyons,
reprendre
papa.
Avec l'ordre. comment tu mets autant d'artistes à l'intérieur? C'est pas possible.
Eh bien si, c'est possible parce qu'en fait ce numéro est en fait un numéro introductif à la prochaine série Harley Quinn. Et en fait dans ce numéro, elle va choisir l'artiste qui va dessiner le ongoing d'Harley Quinn. Et donc chaque page est dessinée par un artiste différent. Et on va la voir en fait complètement casser le quatrième mur et parler avec le lecteur et faire des commentaires en fait sur chacun des dessinateurs.
Alors, je vais juste corriger un truc. Pour moi, elle ne parle pas avec le lecteur, Bruno. Elle parle avec ses créateurs.
Elle parle avec
ceux
le scénariste,
qui écrivent,
effectivement.
Amanda et Jimmy, quoi.
Ouais, tout à fait. Avec Amanda et Jimmy. D'ailleurs, il y a plein de petites private jokes justement sur le fait que Amanda et Jimmy sont mariés et compagnie.
Bah, on assiste à leur mariage d'ailleurs.
D'ailleurs, oui. dans une page sublime de Tim Sale, donc non vraiment c'est de Darwin Cook, pardon.
Oui.
Il y a tellement de bons dessinateurs dans ce numéro qu'on finit par s'y perdre. Bon, en tout cas c'est vraiment un numéro qui m'a énormément plu, beaucoup d'humour. En fait, elle passe son temps à vanner les différents dessinateurs. Mention spéciale personnellement pour la page de Jim Lee qui m'a fait mourir de rire.
Pareil.
qui est énorme et voilà,
énorme et qui est, je pense, peut-être une certaine critique.
oui, il y a de bonnes blagues sur les émoluments de Jim Lee, on va dire,
et puis quand même Batman qui te dit je suis Batman.
juste ça
m'a bien fait marrer quand même.
Non, c'est franchement génial, c'est vraiment très frais. On râlait un peu d'avoir trop de titres sérieux chez DC. Et là, avec ce numéro 0, ils font vraiment un truc vraiment très sympa. On en prend plein les yeux avec les dessinateurs. On a la page avec Adam Hughes est une très jolie page aussi, mais il y a tellement d'humour sur le fait que le mec est pas capable de tenir ses délais. C'est vraiment trop drôle, quoi. Il y a des détails partout en plus. Ça fourmille de détails sur chacune des cases.
Il y a un nombre de vannes à tendance de cul, mais...
Ah oui,
incalculable,
énorme.
Et à chaque fois elle est coupée par Jimmy ou Amanda.
Ah ouais, c'est génial. Et non, franchement, un numéro à 3 euros, C'est super beau. Il y a aussi la page de ce dessinateur dont, du coup, bah, on n'a pas les noms au crédit. Enfin, si, ils sont peut-être. Je
C'est
sais pas si vous vous souvenez.
Robert,
Jeremy Roberts.
Jérémy, voilà.
Voilà, Jeremy Roberts, qui est le gagnant de ce fameux concours avec la page bah, pour le Harley Quinn, donc dont on avait parlé dans le Weekly News et qui avait fait tant de débats aux États-Unis. Un artiste qu'on avait pu voir sur les réseaux sociaux puisqu'il avait fait quand même pas mal déjà de fan art assez connu, dont une reprise de la fameuse couverture du X-Men numéro 1 avec les personnages des New 52. Mais et un artiste plutôt bon, on va dire. C'est assez classique, mais c'est efficace. Une page qui a quand même pas mal changé par rapport à ce qui avait été prévu dans le concours au départ. On en parlait hors antenne. Ils sont pas allés au bout de leur idée avec la Harley Quinn toute nue dans sa baignoire. Bon. Ça, c'est DC qui malheureusement n'est pas allé au bout de son histoire. Mais voilà, bah, c'est vraiment cool.
Il y a une chose que j'ai particulièrement aimée dans ce numéro, c'est qu'avec cette salve incroyable de dessinateurs, tout le monde ne connaît pas le style de chacun et chaque dessinateur est nommé sur chaque page. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'essayer de chercher à lire la signature ou trucs comme ça qui des fois
Ouais.
sont complètement incompréhensibles ou des fois il n'y a pas de signature. Là, elle dit Harley Quinn ou Amanda Conner ou Jimmy Palmiotti disent clairement quel dessinateur a dessiné la page que l'on est en train de lire. Et ça, c'est super agréable de savoir exactement qui a dessiné à quel moment, sans avoir à
Très
se
malin.
référer à la page de crédit à chaque fois pour regarder l'ordre dans lequel les gens apparaissent et compter son nombre de pages. Enfin, le truc est super chiant, quoi. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée, au-delà, bon, plus du fait que ça vanne à mort sur le dessinateur en lui-même. C'est vraiment très sympa pour pouvoir se repérer. C'est une sorte de mini artbook, en fait. Ça permet de découvrir aussi des talents qu'on ne connaîtrait pas forcément. Bon, même si là,
Ouais.
ils ont quand même pris la crème de la
Ils ont
crème.
pris, c'est vraiment des grosses grosses stars. Ça fait plaisir. Il y a même un petit français avec bah justement Stéphane Roux, donc Cocorico. Et non, non,
Bah,
c'est
Stéphane Roux
vraiment
qui n'est
cool.
pas étranger quand même à DC, hein. Rappelons
Ouais,
qu'il avait
mais.
dessiné Zatanna de bien belle manière.
Exactement. Mais ça fait plaisir de le voir sur des intérieurs dans les New 52, puisque il a fait des couvertures jusqu'à présent, mais. Voilà. Donc c'est non, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Hein. Une très bonne surprise ce numéro et. Bah, ça annonce du bon pour la suite, même si on sait qu'il n'y aura pas ce ton aussi foufou quand même par la suite.
On verra. On
On
verra.
verra, on verra, on verra.
C'est ça qui est dommage, je pense, parce que je pense qu'ils ont la possibilité là de faire un titre vraiment barré, un peu à la manière de Deadpool, mais on sait très bien que ça sera pas le cas, quoi, parce que bah elle a pas les mêmes pouvoirs que Deadpool, elle a pas ce côté suffisamment fou pour casser le quatrième mur et parler avec ses auteurs. Mais je trouve que c'est une grande force de ce numéro. Et de nous faire de la faire interagir, c'est excellent, quoi.
Après, c'est quelque chose qu'on apprécie dans le numéro 0. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprécierait lire chaque mois dans l'univers DC? Sachant qu'en plus, nous n'avons plus affaire à la même Harley Quinn qu'auparavant. On n'est pas dans
Ouais, tout à
l'Harley
fait.
Quinn du dessin animé par Paul Dini et Bruce Timm, quoi.
Bah justement, ça pourrait être un apport, je pense, à la personne au personnage New 52 de lui faire ce côté brisage de quatrième mur, quoi.
Mais
En
c'est
tout
par
cas,
accord avec ce qui était avant.
ouais. Mais
Ouais.
déjà, je suis un petit peu rassuré sur un point, c'est que j'avais été très déçu par le Villain Months de Harley Quinn que j'avais trouvé vraiment très très noir, très très sombre. Et on part sur vraiment d'autres bases. Je pense que Jimmy Palmiotti et Amanda Connor, c'est vraiment un duo qui mise beaucoup sur l'humour, sur le côté sexy du personnage. Bon, bien sûr aussi par l'action et un petit peu la violence, mais il n'y aura pas ce côté noir qu'on avait eu dans le numéro Valiant Months, je pense.
J'ai envie de faire une petite mention spéciale aux deux dernières pages du comics,
Ah,
où l'on
c'est pas du
voit.
What's New in the New 52?
Non, 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 du comic
Ah,
lui-même, où l'on
oui,
voit
pardon.
Harley Quinn qui lit sa propre BD avec les cases que l'on voit sur la page d'après. C'est vachement bien foutu.
Très très bien foutu.
Ça, quand
Ouais.
on regarde, on se dit, bon, ces images, enfin, on voit les images, on tourne la page, on revoit les mêmes images en plus grand, enfin, avec les bulles, et j'ai trouvé ça vachement bien foutu comme truc.
À noter justement que c'est Chad Ardin qui fait les dernières pages et c'est lui qui sera le dessinateur de la série régulière par la suite. Ouais,
Vas-y, hein, Benny.
moi je pense que enfin on peut faire le parallèle avec Superboy Prime. Non, je déconne. Pas avec Superboy Prime, mais je pense qu'on a là une série qui, à mon avis, et donc ça va peut-être rassurer Valentin et peut-être vous faire un peu peur, mais je pense qu'on a vraiment là une série qui va ressembler à ce qu'on avait avec She-Hulk chez Marvel dans les années 80. Parce que pour moi, c'est pas du Deadpool, c'est vraiment du She-Hulk. C'est-à-dire que, rappelle-toi les épisodes avec John Byrne, au scénario, c'était tout le temps ça, c'était tout le temps ce personnage qui brisait le quatrième mur, qui se foutait un petit peu de la gueule de l'auteur, qui changeait même les pages à sa guise, qui lisait des comics dans lesquels elle était, etc. Donc là, en fait, on a vraiment cet esprit avec Harley Quinn. Et je pense qu'on est, qu'on part sur une série un petit peu comme ça.
Mais ce qui est pas mal, parce que... Est-ce que c'est juste le gimmick du numéro 0 ou est-ce que ça restera à ça?
Moi, je pense que ça restera. Enfin, je pense qu'on a vraiment une série à la She-Hulk avec Harley Quinn. C'est sur quoi on va là. Et tant mieux, parce que ça m'intéresse vraiment. DC n'en a pas eu, en tout cas depuis longtemps, à ma connaissance. Et ça n'empêche pas qu'Harley Quinn soit dans les Suicide Squad ou je ne sais quoi. Enfin, de toute façon, que son personnage soit un petit peu différent dans les New 52, puisque She-Hulk, ça l'a pas empêché de faire partie des Avengers et d'être un personnage totalement différent de ce qu'elle était dans sa propre série solo.
Oui, c'est sûr, bah, c'est le cas que l'on voit chaque mois avec Hawkeye aussi chez Marvel actuellement.
Tout à fait.
En moins déjanté quand même, mais...
En moins déjanté, certes, mais c'est ce que l'on voit actuellement. Maintenant, en fait, le problème, c'est que l'univers DC, surtout depuis les New 52, se prend énormément au sérieux.
Bah justement, une petite pointe d'humour et une série totalement...
Ça me refait penser justement au fait qu'il y a une bonne blague à un moment sur les mauvais résultats de Batwing et All-Star Western. c'était énorme, qui sont écrits par les mêmes scénaristes.
C'était bien vraiment, foutu, ouais. Ça, c'était
vraiment bien foutu, quoi.
Voilà. Ouais. Et encore, à mon avis, ils auraient, enfin, s'ils avaient écrit d'autres séries, ils auraient pu faire la blague sur d'autres, parce qu'à mon avis, Nightwing et All-Star Western, c'est pas les séries qui ont le plus de mal actuellement.
Batwing, pas Nightwing.
Batwing et All-Star Western. Je pense qu'il y a pire que ça, mais effectivement, oui.
Oui, mais il y a mieux aussi. Hein. Ouais. En termes de vente, je veux dire.
En tout cas, je pressens un très gros carton pour ce numéro, puisqu'il y avait beaucoup de demandes au comic shop. Et, bon, c'est bien.
Mais véritablement un mini artbook à 3$, quoi.
Ouais. Et puis, franchement, une petite dose de fraîcheur, de fun, comme ça, dans les New 52, ça fait vraiment pas de mal.
C'est mon coup de cœur de la semaine, d'ailleurs.
Le coup de cœur général de la semaine.
Hein. Ouais, clairement.
Tout à fait.
Donc, méga passe.
Voilà. Tout à fait.
Voilà.
Ne gaspillez pas votre argent.
On plaisante, hein, bien sûr. Surtout, je pense que le comic vaut pour le channel New 52 de cette semaine. Le Happy Bats Giving.
Pour une fois, c'est pas mal parce que c'est le petit teaser.
Déjà, c'est pas une page qu'on a déjà lue. Donc, ouais, déjà, c'est plaisant.
C'est ce fameux teaser sur la future série
Batman Eternal,
hebdomadaire. Ouais.
Ça peut permettre de rechercher du coup tous les easter eggs qu'il y a dans ce teaser. Donc, c'est pas plus mal.
Non, mais voilà, là au moins, il y a eu un petit travail. Certes, ce n'est pas du New 52, mais du channel New 52, mais on s'en fout de toute façon vu que c'est de la merde. je préfère presque avoir une page comme ça, une jolie double page comme ça par semaine, plutôt qu'avoir un espèce de truc pourri où on a la même page qui revient tous les mois, quoi.
Ah, c'est clair.
Au moins, on a le sentiment de ne pas s'être trop fait flouer sur ces deux pages-là. Même si, bon, c'est une page qu'on a dans tous les numéros de la semaine. Donc, gros bail pour ce Harley Quinn Zero. À surveiller dans le top du mois de novembre. Un numéro qui sera sûrement très bien classé, si on en juge les premières précommandes et ce qu'on en voit passer un peu partout sur le net ou au dire de certains vendeurs de comic shop.
Ah oui, tout à fait.
Cherchez de qui en parle. C'est quoi cette voix? Continuons avec du DC toujours, la suite de Forever Evil, Rogue's Rebellion numéro 2 sur 6, bien sûr. Suite de cette mini centrée sur les Rogues, comme son nom l'indique. Brian Buccellato est au scénario, Scott Hepburn est au dessin. Moi, les dessins, je les trouve pas beaux. Je vais être gentil en plus en disant ça. C'est vraiment pas engageant à regarder. Il y a des pages qui sont meilleures que d'autres.
Rappelle-toi que des autres mini-séries sur les Rogues, je dirais que c'est habituel aux mini-séries sur les Rogues, puisque c'était, comment il s'appelait, Scott Collins.
Scott Collins, ouais.
Que certains n'aimaient pas beaucoup, qui avait fait pas mal de mini-séries sur les Rogues, et donc voilà quoi, en fait.
Mais pour se rendre compte à quel point c'est pas joli, il suffit de regarder la page où Captain Cold perd ses pouvoirs. C'est juste laid. Voilà, c'est laid. Le problème, déjà, de ce numéro, c'est qu'on a 10 pages qui reprennent ce qu'on a vu dans Forever Evil numéro 3.
Oui, puisque...
C'est-à-dire...
Ouais.
Vas-y, je t'en prie.
Non, mais ce que tu viens de me dire, j'allais le dire, Captain Cold qui perd ses pouvoirs, je me suis dit, mais j'ai déjà lu ça, donc...
Captain Cold face à Deathstorm et Power Ring, ouais. qui et donc enfin Captain Cold et les Rogues qui se battent contre ces deux entités là et Captain Cold qui perd ses pouvoirs. On a déjà la moitié du comic qui est certes avec de nouvelles cases redessinées etc, mais qui est quelque chose que l'on sait déjà, on connaît déjà la finalité de ces 10 premières pages.
Et puis en plus, si c'est mal redessiné, ça vaut pas le coup du coup.
Bah on a des plans qu'on n'avait pas vus, c'est pas les mêmes cases à l'identique, mais on en revient à la même chose. Il faut attendre donc la moitié du comic pour avoir de nouvelles intrigues, et c'est là qu'on va comprendre que Captain Cold aura un rôle central, certes, dans Forever Evil, et dans la mini-série Rogues Rebellion, nous allons suivre les Rogues, sans Captain Cold, et menée cette fois-ci par Mirror Master, à qui Captain Cold a délégué tous les pouvoirs. Voilà, la situation n'avance pas trop, puisque, on le rappelle, à la fin de Forever Evil 3, les Rogues s'échappaient, le miroir était brisé par Deathstorm et ils étaient envoyés quelque part, ils comprenaient pas trop. Ils sont à Metropolis et ils tombent sur des vilains qui ont décidé de leur péter la gueule, puisque le Crime Syndicate a mis une prime sur leur tête. Ils vont donc se fighter avec le Parasite. Bon, c'est sur la cover, hein, c'est pas un gros spoil. Parasite, bien sûr, puisque nous sommes à Metropolis. Voilà. Les situations sont marrantes, un petit peu, mais déjà il y a une moitié de comics qu'on connaît déjà, les dessins sont pas engageants, c'est quand même, j'espère que les prochains numéros, enfin en tout cas le prochain sera meilleur, sinon moi je m'arrête là, j'arrêterai la moitié, tant pis. Donc c'est un check-it pour moi, ça n'ira pas plus loin malheureusement. On va continuer avec le Red Hood and the Outlaws numéro 25, Mr. René Bunny.
Un numéro de James Tynion IV et avec des dessins de Jeremy Owen. On est en plein zéro year. Et du coup,
j'adore, tu fais ton propre écho.
Voilà. Oui, d'ailleurs, l'écho qui ressemble vachement à la voix initiale, au fait. C'est, ça change pas du tout de voix entre les deux. Ça nous montre un petit peu comment Jason Todd justement a croisé un petit peu la route de Red Hood, ou en tout cas des Red Hood. On est juste après le démantèlement du Red Hood Gang par Batman. C'est pas facile à dire, hein. Red Hood Gang. Et du coup, on assiste aussi à sa première rencontre avec Talia, un personnage qui va vraiment marquer son existence.
Talia Red Hood, bien sûr.
Voilà, exactement. T'as tout compris. Tu peux aborder le numéro sans problème. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais alors, James Tynion IV, c'est toujours un petit peu le problème. Quand il est pas chapeauté par Scott Snyder, il est toujours aussi brut de décoffrage. On fait pas dans la finesse et dans la psychologie, quoi. C'est vraiment, je veux dire, Red Hood, enfin Jason Todd et son pote là, puisqu'on voit l'un de ses potes, Christopher, un pote qui fréquentait à l'époque.
Et qui donc a dû mourir depuis.
Oui, je sais pas ce qui est devenu. Vraiment, ils agissent comme deux blaireaux. Ils sont pas très fins, hein, vraiment.
C'est quoi, c'est Jay Silent Bob en fait?
Bah, non, mais enfin voilà quoi. Ils sont un peu cons quoi. Alors je veux bien croire que il y a des erreurs de jeunesse, mais là quand même, voilà, c'est pas excellemment bien écrit quoi. C'est vraiment. Alors il y a de bonnes idées, mais voilà, mal fagoté, mal mise en place. Bon, ça reste assez sympa, c'est surtout intéressant par rapport aux origines donc du personnage. Ça nous met en lumière une période qu'on connaissait pas forcément. Donc voilà, ouais, donc c'est
honnêtement, je ne l'ai pas lu, mais par rapport à ce que tu en dis, ce personnage de Christopher, si on ne l'a pas revu depuis, soit il est mort, ce dont je doute, à mon avis, James Tynion IV l'a placé pour le faire revenir genre en vilain ou en future menace pour le reste de la série.
Ce serait bien possible. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, il n'est pas super important non plus dans cette histoire, enfin, pas plus que ça.
En général, dans les comics, c'est comme dans la nature, rien ne se perd. Hein.
Oui, voilà. Ben alors, en tout cas, oui, c'est bien possible. Bon,
rarement, en tout cas, les choses se perdent.
Voilà, ben, un numéro qui est vraiment à la limite du check-it, mais je vais mettre un bail moins, parce que c'est quand même intéressant par rapport au personnage de Jason Todd, voilà, d'avoir ces éléments-là pour aborder la suite de la série.
Bruno. J'ai une petite question par rapport au numéro 0 qui était revenu sur le fait qu'en fait le Joker avait manigancé tout. Est-ce qu'on a des relations avec le Joker dans ce numéro ou...
Exactement. Au fait, cette espèce de figure étrange que tu vois sur la couverture avec des bandelettes autour de la gueule, j'ai pensé au début, je me suis dit putain, c'est Hush, si ça tombe, ils vont le placer dans les New 52, il était déjà là à l'époque, enfin je sais pas. Je m'attendais à un truc énorme, puis bon, je vais tout de suite calmer le jeu. Il s'agit au fait du Joker.
Donc c'est raccord avec le numéro 0, quoi.
Visiblement, voilà, on comprend que bah, c'est le Joker après qu'il soit tombé dans cette cuve. Mmh. Et il a des bandelettes plein la gueule. Enfin, c'est vraiment juste
est-ce
après.
Est-ce vraiment le Joker, quoi? Parce que, enfin, le doute plane encore sur est-ce que le chef du Red Hood Gang qui avait disparu dans Batman 24 est vraiment le Joker.
Bah, en tout cas, là, enfin, ça semble vraiment être le cas. Enfin, je veux dire, voilà. Mais on a toujours le doute, effectivement, puisqu'on voit pas son visage. En même temps, si c'est pas le Joker, c'est quelqu'un qui lui ressemble vachement et qui a le même comportement. Et qu'est-ce que vient foutre ce gars-là au même moment où, enfin, ça se passe juste après cet épisode, oui, de Batman où le chef du gang des Red Hood tombe dans cette cuve, quoi.
Donc il reste sur cette ligne, voilà, éditoriale, quoi.
Ouais.
Un tie-in justifié pour toi, Zero Year, alors, ou pas?
Ouais, relativement justifié. Alors c'est pas excellent, voilà. James Tynion IV, pour moi, a de bonnes idées, mais il a pas encore la plume de Snyder, loin de là. Il a un peu de mal, quoi, à les mettre en mots, quoi, tout simplement, ses idées.
Très bien. Donc tu l'as dit, un bail moins.
Un bail moins, ouais.
On continue avec Valentin qui va nous parler du Green Lantern New Guardians numéro 25.
Oui, écrit par Justin Jordan et dessiné par Brad Walker et Geraldo Borges pour les pages 7 à 13. Donc on retrouve, on a la suite du Green Lantern où on voit Star Sapphire qui voit qui va aller voir les Amaroons pour leur faire un petit topo de ce qui s'est passé. Et ensuite on retrouve Kyle qui est sur une planète utopique, Exuras, qui est rejoint par Star Sapphire. Et donc ils vont enquêter à la demande des gardiens pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de louche sur cette planète qui paraît trop bien pour qu'il n'y ait pas quelque chose de louche.
Bah, forcément, c'est la planète d'où est venu le strabisme.
Voilà.
Cherchez la vanne. Oh, ouais. Oui, je sais, j'ai honte.
D'ailleurs, c'est une planète à lunettes.
Et du coup, les deux vont enquêter. Et donc, c'est une très très bonne histoire où on voit que Kyle s'est posé là en fait pour se reposer, pour surtout passer incognito, pour que personne ne sache qu'il n'est pas mort suite à Lightout. Et du coup, c'est vraiment une très bonne histoire. Les dessins sont vraiment bons. On voit pas trop le changement entre Walker et Borges. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. Parce que le cliffhanger de fin montre en gros pourquoi c'est si bien. Il y a une contrepartie. Et du coup, c'est un bon petit bail.
Très bien. On va continuer avec Bruno, qui décidément continue à lire cette série. C'est Pandora numéro 5.
Ah oui, Pandora.
Pandora.
C'est écrit par Ray Fox, avec des dessins de Francis Portela. Et c'est un tie-in à Forever Evil. Donc, on avait quitté Pandora alors qu'elle était en train de braquer avec son flingue la tête de Alfred de la Terre 3.
Comme moi, j'avais quitté Pandora.
Ouais, ce fameux outsider. Et donc elle vient pour demander des réponses sur justement la boîte de Pandore, sur l'origine du mal. Et donc ça va, c'est cool parce qu'il dévoile pas mal de choses quand même sur l'origine des mots en fait qui se sont déversés de la boîte de Pandore, sur qui a créé la boîte et compagnie. Donc il y a pas mal de révélations sur les sept péchés. Donc ça c'était plutôt cool. Après, y a toutes ces scènes avec l'armurier de Pandora que je trouve toujours aussi chiant. Mais sinon, mine de rien, c'est un numéro qui se lit très vite, mais qui est pas inintéressant, qui est en fait tout à fait prologue à ce futur crossover qui s'appelle Blight et qui va voir un peu toutes les figurines de la partie dark de DC s'associer pour éliminer en fait les origines de la
toutes les figurines. Du mal.
Les figures.
Non mais parce que oui, toutes les figurines. J'ai une image de figurines Eagle Moss en fait. Je sais pas pourquoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont rassemblés comme des figurines Eagle Moss et il faut qu'ils éliminent le mal. Et voilà, c'est sympathique, ça permet d'approfondir un petit peu les origines de la boîte de Pandore. Donc mine de rien, c'est plutôt cool. Et toujours aucune, enfin bon, je veux pas trop en dire, mais par rapport à cette histoire de fusion des univers qu'on a eu dans Flashpoint, moi j'attends toujours qu'ils reviennent là-dessus. C'est toujours pas dans ce numéro-là, mais c'est pas mal. Donc un petit check-it.
On en parlait dans la bibliothèque justement, j'allais dire.
Ah bah, voilà, donc. Les flashpoints, si vous voulez en savoir plus, écoutez la bibliothèque.
Bibliothèque mais, que vous retrouverez dans le Comic City 82, qui est déjà Comic sorti City au moment où vous écouterez cette émission. Voilà.
Tout promo.
Et, il voilà, faut. Mais,
sinon, graphiquement, Portela, c'est moyen quand même. Je suis pas fan. Justement, les parties avec le black là, je les trouve pas très belles. Et puis même, il y a des pages. Enfin, il y a Ça se lit hyper vite. Donc c'est un tout petit check-it, on va dire.
Alors Bruno, moi j'ai quand même la question qui va, je pense, répondre à mon interrogation. Est-ce vraiment bien? Est-ce que tu classes ça au même niveau que Phantom Stranger en termes de qualité, en termes d'intérêt?
Ah, je préfère quand même le Phantom Stranger.
Ok, donc clairement, je ne retourne pas voir Pandora. Voilà. Merci Bruno, j'apprécie ta franchise.
Non, voilà, un petit check-it. Un petit check-it pour les complétistes de Forever Evil.
On va continuer avec le Batman and Two-Face pendant que je vais trucider mon chien. Numéro 25, Benny, c'est toi qui vas nous en parler.
Alors, Peter J. Tomasi est au scénario et Patrick Gleason est au dessin. Et migré à l'ancrage. Alors, écoute, moi c'est un épisode qui m'a pas vraiment passionné. En fait, on est toujours dans cette intrigue avec cette certaine McKillen qui est responsable du mal qui ronge Two-Face. Et donc Batman s'oppose à cette nana peu recommandable. Et voilà, autant dans l'épisode précédent, c'était intéressant par rapport aux origines de Two-Face, on voyait pas mal de choses. Autant là, on en voit un petit peu aussi, mais voilà, c'est un peu du déjà vu. J'attendais que ce soit conclu avec cet épisode et finalement non, ce sera peut-être pour le prochain coup. Ça avance pas énormément quoi, je trouve. Je sais pas ce que veut raconter exactement Tomasi avec ce personnage qui m'ennuie un peu. Donc voilà, j'attends de voir. On voit pas tellement Two-Face justement dans l'épisode, donc c'est aussi un petit peu dommage. On le voit même
écoute,
d'ailleurs pas
je
du tout.
Je vais te présenter mon chien maintenant. Il lui a ressemblé, ça y est. Je m'en suis occupé. Il lui ressemble à Two-Face, donc je t'enverrai des photos. Ça te fera plaisir et ça te remontera le moral.
D'accord.
Non, en fait, je n'ai absolument pas écouté ta review, j'étais en train de latter le chien, je suis désolé.
c'est... Ami de la SPA, bonjour.
Non, voilà. C'est pas vrai, je l'ai même pas tapé.
Brigitte Bardot était une auditrice, quel dommage.
Bref. Mais je trouve que les fois où il apparaît dans le comic, c'est quand même bien. Ce qui se passe avec un certain signal, c'est plutôt bien pensé.
Ouais, il y a cette page-là qui est sympa, c'est peut-être la page la plus sympa du comics. Mais dans le numéro précédent, il y en avait plein, quoi, qui étaient vraiment vraiment pas mal. Là, je trouve que ça manque un petit peu de d'idées. Et justement, dans la mise en scène de Patrick Gleason, moi, je suis pas fan justement de son style. Bon, vous le savez très bien. Mais autant dans le numéro précédent, justement, il y avait beaucoup d'idées. Il jouait vraiment avec la notion de Two-Face. Autant là, quoi. Je me suis un peu ennuyé. Donc pour moi, ce sera juste un check-it. J'attends vraiment que ça avance et qu'il y ait enfin un dénouement à cette intrigue.
Il y a toujours Carrie dans l'histoire ou pas?
Du tout.
D'accord, parce qu'à un moment, c'était prévu que ce soit Batman et Carrie. Et là, ils ont mis un arc beaucoup plus long sur Two-Face. Mais...
Et ouais.
Donc ils ont laissé tomber le personnage de Carrie Kelly. D'accord.
Ben forcément, peut-être que c'est juste reporté. Hein.
D'accord, peut-être reporté, ok.
Je sais pas, je c'est une interrogation. D'ailleurs, si, auditeur, vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la laisser en commentaire.
Mais y a aussi à noter l'apparition d'un personnage très connu des fans du Batverse, et qui est assez logique, du coup, au moment où il apparaît. J'en dis pas trop pour pas spoiler, mais ça, c'est un truc qui m'a bien fait plaisir, moi. Puis j'ai plus accroché à ce numéro qu'au précédent. Donc pour moi ouais, ça serait un check-it plus aussi je pense.
Ok.
Très bien. Ça conclut donc notre partie d'essai. On va maintenant aller vers l'indé et on commence avec, on va dire, de l'indé mais du DC puisque c'est chez Vertigo, c'est The Wake numéro 5, toujours scénarisé par Scott Snyder avec des dessins de Sean Murphy. On arrive à la moitié de la mini, puisque c'est une mini en 10. Et je dois dire que cet épisode a failli être mon coup de cœur de la semaine. J'ai lu Harley Quinn après. J'ai longuement hésité à choisir lequel allait remporter la palme du coup de cœur pour moi cette semaine. Finalement, ça a été Harley Quinn de par son côté frais, complètement déjanté et vraiment ce qu'on attendait chez DC. Mais The Wake aurait vraiment pu avoir ce coup de cœur, tout simplement parce que, en fait, ce numéro m'a ennuyé. C'est là, vous inquiétez pas, je vais y venir, vous allez comprendre. Ce numéro m'a ennuyé parce qu'en fait, les personnages commençaient à m'ennuyer.
On est très inquiets. Hein.
Oui, pourquoi je dis que c'était mon coup de, enfin, ça aurait pu être mon coup de cœur si ce numéro m'a ennuyé.
Non, mais la tension est à son comble. Hein. J'espère que ton explication tiendra la route. Hein.
Eh bien, la suite au prochain épisode. Nous passons à la... en plus, le mec, il met un cliffhanger, tu sais. En fait, oui, voilà, ce numéro m'a un petit peu ennuyé au départ, puisque ces personnages, j'ai vraiment la sensation que Scott Snyder en a fait le tour. Ces personnages qui sont coincés au fond de la mer, je le rappelle, poursuivis par des monstres absolument gigantesques, enfin, notamment un monstre absolument gigantesque qui est sorti du fond d'eau. Pour moi, d'ailleurs, c'était même too much. Ce monstre. Enfin, je sais pas si t'as eu ce sentiment, Bruno, de too much aussi, ou c'est que moi, peut-être.
Bah, non, moi, au contraire, j'étais content parce que vraiment, là, on avait une menace vraiment impressionnante et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool, surtout qu'on en avait quand même eu un aperçu déjà dès le premier numéro avec cette partie dans le futur où justement il apparaissait déjà. Donc, c'était assez logique. Mais voilà, mais c'est très impressionnant et ça donne droit à des très belles scènes.
Ah oui, non, les scènes sont magnifiques. C'est juste, comme je dis, c'est que ce monstre est too much comparé à eux qui
balèze,
sont perdus au fond, sans aucune ressource, qui sont prêts à crever. Ils sont plus que 4. Enfin, voilà.
Tu dis, le méchant,
c'est trop face à des humains. Enfin, de pauvres petits humains qui n'ont pas de pouvoir. On est loin d'un monde à la Marvel ou à la DC.
Tout à fait.
Donc, du coup, je commençais en plus à m'ennuyer avec ces personnages parce que pour moi, il en avait vraiment fait le tour. Et d'un seul coup, on a un retournement de situation monstrueux et on va entamer le deuxième chapitre de The Wake avec une boucle qui revient au début de la série. Et franchement, ça m'a foutu une claque et je me suis dit waouh, ça c'est couillu.
Ouais, c'est la fin de la saison 1 et on attend la saison 2 avec beaucoup d'impatience maintenant parce que je suis d'accord avec toi, c'était vraiment très très bien foutu ce numéro. Un numéro un petit peu plus long que le précédent et un petit peu plus cher d'ailleurs aussi. Mais qui permet justement de conclure cette première partie avec brio, avec beaucoup d'action, des instants assez touchants, tout particulièrement vers la fin, et puis ce final très what the fuck quoi. Donc
justement, avec ce final, je me suis dit d'accord, ce sentiment que j'avais de m'emmerder avec les personnages et que justement il en avait fait le tour, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va pouvoir nous raconter encore pendant 5 numéros sur ces personnages-là ? D'un seul coup, ça prend une autre dimension qui est vraiment intéressante. Et là, tu te dis, il y a du renouveau à venir. Ça, c'est cool. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce numéro-là et que j'ai failli en faire mon coup de cœur de la semaine. Vraiment, cette grosse cassure dans la narration en elle-même et dans la série en elle-même.
Ouais, non, mais c'est vraiment très sympa et vivement le film. Hein. S'il devait y en avoir un, ce serait cool parce que c'est vraiment un très bon scénario pour l'instant.
Voilà, c'est tellement cinématographique, pas besoin de storyboard là.
Ouais, là, c'est
tout
nickel,
est prêt.
Quoi.
Donc, vous l'aurez compris, pour moi, c'est un gros bail. Je pense que Bruno, enfin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter,
aussi,
excuse-moi.
Ouais. Hein, non, mais j'ai rien d'autre à rajouter à part que les dessins étaient vraiment très sympas, encore une fois, et que j'ai pris mon pied avec ce numéro. Donc, un bon gros bail, un bon plaisir à la lecture.
Alors, ça ne reviendra qu'en février 2014, rappelons-le, une petite pause de quelques mois, mais ça passera vite et justement, c'est aussi le bon moment pour faire une petite pause.
Voilà, sachant qu'il y aura un mini-trade pas très cher à 10€ qui va sortir bientôt, qui comprendra les 5 premiers numéros, justement.
Très, très bonne initiative de la part de Vertigo de faire ça, justement. Ça pourrait relancer un petit peu l'intérêt de la série pour ceux qui l'auraient raté, qui n'auraient pas pris le train en cours, et puis peut-être même de convertir de nouveaux lecteurs pour cette deuxième saison. On va continuer avec un deuxième numéro, c'est Afterlife with Archie. Bruno a été lire du Archie Comics.
Eh oui, tout à fait. C'est ma première expérience avec du Archie et j'ai regretté.
C'est pas forcément peut-être le mieux pour commencer Archie, je pense.
Bah pourtant, moi c'est mon univers un peu. C'est l'univers un peu des zombies, un truc un peu d'horreur.
Oui, mais enfin, quand tu vas lire du Archie, tu vas pas pour ça normalement.
Non, non, bah ouais, mais par contre, on en parle tellement dans les émissions et tout que, bah, à force, je connaissais le personnage, ses histoires avec Véronica et Betty, son copain Jughead et compagnie, le père de Véronica qui déteste Archie, enfin plein de. C'est vraiment du soap, hein, Archie, hein, de toute façon, à la base.
Et
Et
d'ailleurs, si
donc
vous voulez
là.
du soap à mort, lisez Life with Archie, hein, qui est vraiment Archie depuis qu'il est marié.
Et alors. En lisant ce comics, j'ai découvert aussi qu'en fait, c'était le même univers, Archie et Sabrina la petite sorcière.
Ah, tu ne le
Cette
savais pas?
fameuse série télé. Bah non, non, j'avais jamais fait gaffe en fait. Et
Sabrina la petite sorcière, mon Dieu.
L'apprentie sorcière,
Voilà,
en fait, dans le titre exact.
avec ses tantes magiciennes et sa chatte qui parle, je ne parle pas de.
Ah, non, c'était un chat. Attention, c'était pas une chatte, c'était un chat.
un chat, c'est vrai.
Ouais,
Donc en fait,
Et ses tantes,
voilà,
c'était, il
j'ai.
y avait, je crois, Zebda. Il y en a une qui devait s'appeler Zebda, je crois, et l'autre, je me rappelle plus.
Comme le rappeur.
Ils sont
Donc
plusieurs,
en
en plus,
fait,
c'est un groupe Zebda
ouais.
à la base.
Donc j'ai lu le 1 et
C'est
le
pas
2 en
grave.
fait à la suite, j'avais un peu de retard sur le 1, et j'ai pris un pied extra avec ce numéro qui est écrit par
D'ailleurs,
donc
il a le
Robert.
pied en main, c'est du zombie, il a le pied.
Ouais, tout à fait. Roberto Aguirre Sacasa qui fait le scénario. Et alors les dessins, c'est ça qui m'a fait acheter ce titre, c'est les dessins de Francesco Francavilla. Et donc voilà, le pitch, c'est une invasion zombie dans la ville de Archie. Justement via.
Riverdale, rappelons-le, Riverdale.
Ouais. Via l'intervention en fait de la petite Sabrina qui ressuscite en fait le chat de Jughead qui a été écrasé et comme dans Cimetière en fait le chat revient à l'état un peu zombie et bah voilà c'est le début
Oh,
de la
il a
fin
spoilé Cimetière.
le film qui a le roman qui est très ancien et le film qui est quand même assez vieux aussi mais voilà et après ça part vraiment c'est écrit comme du soap mais avec ce côté horreur on a un Jughead zombie qui veut bouffer tout le monde c'est bien écrit c'est très très beau et franchement c'est un plaisir à lire et donc voilà ça coûte 3 euros c'est une mini qui sera en 4 ou 5 je ne sais plus et franchement foncez. Même si on connaît pas l'univers d'Archie, on peut vraiment apprécier. Et c'est une très bonne surprise et ça fait de bonnes ventes aussi. Ça permet un petit peu de mieux connaître cette licence peut-être dans les autres pays que les États-Unis. Et non, c'est
Rappelons
cool.
que Archie en plus est très vendu aux États-Unis puisqu'il est vendu en plus dans les Toys R Us.
Alors, par contre, ça, je me demande si Archie Afterlife ou Archie sera vendu dans les Toys R Us
Non,
parce
mais
qu'on a quand même droit.
le Archie classique. Hein.
Ouais, le classique. Parce que là, il y a quand même du bon zombie qui bouffe des personnages avec du sang partout. Donc, c'est quand même assez gore.
C'est marrant
Donc,
de retrouver Roberto Aguirre Sacasa parce qu'il était avant sur chez Marvel, sur Spider-Man notamment, durant la période Civil War. Donc, je me demandais ce qu'il était devenu, au fait, ce
Je
scénariste.
me demande
Et
si
puis.
Roberto Aguirre Sacasa n'a pas participé à du Marvel Zombies
Alors,
aussi.
il a participé derrière le bouquin, c'est marqué à Archie, un crossover entre Archie et Glee.
Oui,
Voilà.
qui était sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus.
Voilà, le truc de fou, quoi.
C'est quoi Glee?
Et
Glee, la série télé.
la série télé.
Ah, le truc avec les danseuses, non? C'est pas ça?
Non,
Avec les
avec
chanteurs.
les
Non.
chorales.
Voilà, la chorale. Et il
Ah oui.
avait participé aussi à The Stand de Stephen King en comics.
Mais puis c'est quelqu'un qui écrit aussi des romans et qui
Ouais.
écrit pour la télé de mémoire.
Mais c'est vraiment très bien écrit, hein. Et puis, non, c'est cool. Et j'ai vraiment envie de lire la suite. Donc, pour moi, c'est un bon gros bail. Ça a failli être mon coup de cœur avant que je lise le Harley Quinn. Et... Non, très bon titre. Et pas très cher. 3 euros.
À s'écouter, enfin à se lire plutôt en écoutant la chanson Sugar Sugar, bien sûr, du groupe The Archies.
Eh bien, oui, tout à fait,
Mais
pourquoi pas.
ce titre que tout le monde connaît, bien sûr, Sugar Sugar, et qui en fait était fait par un groupe, The Archies, qui était par rapport à la série télé The Archies, enfin, le dessin animé
D'accord,
The
tu veux
Archies.
pas nous le chanter un petit peu pour voir ce que ça
Bon, bah, attendez, vous faites une petite recherche sur Google, Sugar Sugar, vous trouverez, c'est un morceau que tout le monde connaît par cœur.
Je rigole.
Passons à la suite, on va passer chez Image maintenant, c'est Sex Criminals numéro 3, Valentin. Bizarrement, on te retrouve toujours sur des projets de sexe.
Ah oui, donc après le gore du cul, avec donc.
C'est dit avec tellement de classe.
Bah oui, je suis la classe incarnée. Donc on retrouve Sex Criminals avec Matt Fraction au scénario et Chip Zdarsky. J'espère que
Et Hutch.
Zdarsky au.
Oh putain!
Le pire, c'est que tu l'avais déjà fait celle à Benny. Hein.
Ah merde.
Donc on retrouve Chip Zdarsky au dessin.
Je
Et
l'étais
donc
même pas vu venir.
on a la suite de l'histoire de John, comment il a des, comment, ce qu'il a fait après avoir découvert son pouvoir, et il va emmener sa copine dans le sex shop dans lequel il a été pillé nombre de porno, etc., etc. Et donc...
Come World.
Oui, voilà, The Come World. Et donc, à la sortie de ça, ils vont avoir une idée qui fait un lien avec les premiers numéros et le fil rouge un peu de cette série. Donc c'est vraiment une série excellente. C'est toujours... ça faillite mon coup de cœur aussi. C'est une série très marrante, sans complexe, qui fait vraiment plaisir. Et... Je sais pas ce que t'en as pensé, Bruno, mais... Ah, mais
bah si, c'est juste énorme. C'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs dans les comics, moi je trouve, au niveau du ton. On a droit à des... Enfin, si vous voulez voir un personnage se faire assommer avec un dildo, il faut regarder Sex Criminals. Oui.
Ou faut jouer à Saints Row.
Oui.
Ouais, on joue à Saints Row, ouais.
Et à noter aussi...
Oui, c'est peut-être ce que t'allais dire, mais si vous avez envie de voir la meilleure scène chantée dans un comics...
Oui. Voilà.
C'est dans ce numéro, puisque... Alors, pour la petite histoire, il y a un personnage qui va chanter toute une chanson de Queen. Sauf qu'en fait, Matt Fraction a pas eu les droits en fait pour utiliser la chanson. Donc du coup, il fait des commentaires. C'est-à-dire qu'il il cache chacune des paroles de chanson par du commentaire. En fait, il parle au lecteur. Et alors, il nous place des pics sur Apple, sur Queen et tout. Mais c'est délirant. Moi, j'étais là. J'ai halluciné. Je me dis, mais c'est vraiment un truc vraiment à part, cette série. Et on se marre du début à la fin. Puis, c'est
il
cool,
dit qu'il y aura peut-être la chanson du coup dans le thread.
Ouais, mais ce serait dommage parce que c'est vraiment cool cette partie où il parle au lecteur. Et voilà, et puis il y a toujours ce mystère avec ces gens en blanc qui sont capables aussi d'être quand le temps s'arrête d'interagir avec les personnages principaux. Non, c'est vraiment super ce titre. C'est très très frais.
À chaque fois, vous dites un truc, tu sais, ça va peut-être être comme ça dans le thread. C'est étonnant parce que ça veut dire que de toute façon, ils seront obligés de le changer dans le thread. Puisqu'ils peuvent pas mettre dans le thread, ça va être comme ça dans le thread. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc ils vont forcément changer du texte.
Peut-être, ouais. Peut-être. Mais ça arrive parfois qu'il y ait des changements dans les threads.
C'est une pratique que je déteste personnellement.
Oui, voilà. C'est pour ça que ça titille un peu.
Parfois, c'est très drôle parce que... Non, mais qu'on ait des choses en plus dans le trade, je veux dire, à la rigueur, bon, bah, pour ceux qui achètent le trade, ils ont un petit truc en plus, etc. Des choses que l'on n'a pas forcément dans le single, à la rigueur, les deux éditions sont différentes, et comme ça, bon, pour les collectionneurs, ça peut être sympa, mais que la version définitive du trade soit vraiment différente du single, si tu le prends en trade parce que tu l'as pas acheté en single et que t'as pas la même chose, c'est un petit peu désolant, quand même.
Là, en plus, c'est vraiment un des trucs les plus drôles du comics, donc ce serait vraiment dommage. Après, parfois, il y a des bonnes surprises. Je sais que j'avais feuilleté le Scott Pilgrim numéro 4 en couleur, où il y avait une blague justement sur le fait que le personnage était en noir et blanc. Donc, et là, en fait, il y avait carrément entre parenthèses marqué dans la version noir et blanc, c'est beaucoup plus drôle, mais tu vois, il précisait quoi. Donc, bon. Parfois, ils peuvent changer les choses et que ce soit aussi...
Que ce soit un ajout, mais qu'on nous explique ce qu'il y avait dans la version originale, bon, voilà. Et puis là, Scott Pilgrim, on va dire, c'est une deuxième édition.
Ce n'est pas la
seule édition qui est disponible.
C'est pas la seule édition, ouais.
Là, ce serait la seule édition disponible en trade. Alors, si elle est changée... De toute façon, DC nous l'avait déjà fait, le coup, hein, avec Redwood, notamment.
Avec Redwood, avec Teen Titans, et probablement avec Deathstroke, qui avait été repoussé et qui va sortir bientôt.
Et du coup, je sais pas si la blague tiendrait... plus si ça reste comme ça pour le trade ou si justement il change vraiment pour le trade avec les paroles de la chanson quoi.
Ouais, non, faut qu'il laisse ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon moment un titre vraiment à part, un ovni.
Mais c'est comme chez Marvel hein, dans le trade Gwen Stacy ne meurt pas.
Non, c'était dans le What If ça.
Ensuite, elle est toujours vivante dans tous les épisodes en trade. Tu sais, le mec qui propage la rumeur impossible.
Il y a deux univers en fait. Il y a deux univers. Trade et l'univers single.
Mais les gens lisent que les singles, ils se rendent pas compte. Mais dans les trades paperback, c'est pas la même histoire du tout.
Et d'ailleurs, elle devient Spider-Woman.
Ouais, mais faut pas le dire. Ah, comment tu spoil et tout.
Spoil.
En tout cas, un gros bail pour moi.
Ça, il spoil your resultat.
Un gros bail aussi. Gros bail.
Et on va passer à toi, Mr. Honeybunny, pour notre dernier review indé de la semaine. C'est le Exo Manowar numéro 19 en plein Unity.
Exo Manowar. Alors, de Robert Venditti et Carrie Nord, avec cette voix de robot extraordinaire quand même, effets spéciaux et tout. Ouais, t'as vu. Donc...
c'est marrant parce que tu gâches tout, en fait.
Oui, j'ai l'art de tout gâcher, tu sais, au fait. Non, en fait, c'est de la merde, je détruis mon propre travail. Vous ne le méritez pas. Carrie Nord, justement, parlons-en directement. C'est dommage parce que les dessins sont pas mal. Ça pourrait faire penser à du Buccellato sur Flash un petit peu. Il y a une espèce d'aspect cartoony. Enfin, c'est pas mal, mais c'est super délavé. les pages sont blanches, plus blanc que blanc, quoi. C'est incroyable. On a l'impression qu'elles sont passées à la machine, à l'insouchant, tout
micro.
Ça. Oui, enfin voilà, homo micro, ce que tu veux. Mais toujours est-il que
hétéro micro aussi, hein, il en faut pour tous, hein, pas arrêter.
Voilà,
putain, voilà, j'ai fait la vanne, c'est bon, on peut y aller.
Sortez toutes vos vannes pendant qu'il en est encore temps. donc voilà, c'est vraiment dommage pour l'aspect graphique. Honnêtement, ça m'a un petit peu peiné parce que ça aurait pu être meilleur à mon avis avec des couleurs plus tapantes.
Avec Homo Micro, ça t'a un peu peiné, oui. je suis désolé, mais j'ai fait une association
c'est
d'idées.
C'est Caputo Mastafuit.
Bon, et donc le scénario. Alors rappelons le scénario un petit
j'ai
peu.
Honte.
Posons les choses. Robert Venditti, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien alors, ce Ixo Manowar donc veut reconstruire une espèce d'empire romain. C'est une sorte de dictateur. Il s'oppose à Ninjak. Alors là, Ninjak, il l'a fait prisonnier.
À mon avis, il veut pas reconstruire l'empire romain. Il déteste les Romains, donc.
Oui, enfin, il veut être dictateur de sa propre de son propre état. Et... Je sais pas comment le. De sa propre je sais pas si
oui,
vous si vous
oui,
trouvez
état,
le nom.
Pays peu importe
oui,
enfin,
voilà.
C'était la Roumanie quoi qu'il annexait
de son territoire exactement et il a fait prisonnier Ninjak et là au fait les trois quarts de l'épisode il est en conflit avec Volo donc son comparse son ami ils se mettent sur la gueule bon il se passe pas grand chose au fait c'est vraiment un épisode de transition malheureusement que j'ai lu là. J'attends la suite avec impatience parce que l'arc en cours, donc le fameux Unity, me paraît très intéressant, mais ça commence à bouger à la fin de l'épisode. Donc là, c'est vraiment une parenthèse qui est pas forcément utile. Donc du coup, voilà, c'est un check-it.
Même en même temps, j'ai envie de dire, on voyait un peu moins ce qui se passait avec Ixo Manowar dans les pages de Unity. On voyait plus l'équipe, etc. Donc c'est peut-être un peu normal que l'on voit ce qui se passe justement du côté d'Ixo Manowar pendant cette partie du crossover.
Ouais, mais ce qui se passe justement de son côté, c'est pas forcément super passionnant, quoi. En fait, c'est limite, on pourrait zapper les parties avec Ixo Manowar. Bon, en tout cas, celle-là, elle est très passable, quoi. Bon, on verra par la suite. En tout cas, voilà. Donc, juste un check-it, un petit peu dommage, mais c'est un event très intéressant et j'aime beaucoup cet univers que je ne cesse de découvrir avec joie tous les mois.
Très bien. Eh bien, on va passer maintenant à Marvel et on commence avec Avengers numéro 23. Toujours tie-in à Infinity, deux épisodes d'Avengers se sont intercalés entre l'épisode 5 et l'épisode 6 qui sera l'épisode final d'Infinity. C'est scénarisé par Jonathan Hickman avec des dessins de Lenny Francis Yu, un Lenny Francis Yu que j'ai pas trouvé super en forme personnellement. Je sais pas, ces pages m'ont carrément pas séduit comparé à d'habitude. Peut-être aussi dû à la colorisation.
Feuilleté, je sais pas, c'est peut-être l'ancrage aussi ou
ouais.
Je sais pas. Mais...
Ben pourtant il s'ancre lui-même apparemment.
Ouais, mais c'est vrai que c'est très.
Beaucoup de fonds vides aussi.
C'est différent, ouais.
Beaucoup de fonds vides. Et ça n'engage pas non plus à la lecture et à l'immersion. Ce que l'on va voir, c'est les Avengers qui, comme dans le numéro 22, reviennent vers la Terre pour cet affrontement final avec Thanos, sauf que autant dans le numéro 22 il ne se passait rien et vous pouviez le zapper, celui-ci il se passe des choses et on comprend comment ils vont réussir à passer le barrage qui les empêche d'aller sur Terre puisque Thanos a annexé le Pic, hein, cette fameuse station du S.W.O.R.D. et a toute une flotte de vaisseaux qui les empêche de passer, le Pic aidant en plus à détruire tous les vaisseaux qui essaient de franchir la limite de la Terre. Comment vont-ils réussir? S'ils réussissent d'ailleurs, et y aura-t-il des pertes? C'est là la question qu'on va avoir. Et pour moi, ce numéro est immanquable, je pense, à moins qu'il soit répété dans les pages de l'Infinity 6, ce que je n'espère pas, franchement. Mais dans le cas où ce ne serait pas le cas, c'est vraiment un immanquable. Ça permet de comprendre comment ils vont réussir à passer. Et on va voir des gens agir, enfin des personnages agir, qu'on n'a pas beaucoup vu agir dans tout ce crossover, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et mention spéciale à une des dernières pages qui est sacrément graphique, je trouve, et qui est juste magnifique. C'est peut-être la meilleure page de tout le comic, je trouve. Elle est dégueulasse, mais elle est belle.
C'est Thanos qui monte sa bite.
Ça pourrait, mais c'est encore plus crade.
Ah bon ? Ah bah putain, ça donne envie.
Voilà, c'est comme Bruno nous avait fait une fois une page dégueulasse qui était magnifique. Eh bien, je le rejoins, c'est pareil. Je pense, si tu l'as feuilleté, tu as peut-être,
oui.
Tu penses peut-être, enfin, tu vois peut-être.
Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Et c'est vrai que c'est très péchu et c'est assez impressionnant et c'est jouissif.
Ouais, oh, c'est vrai.
Par rapport à ce que je viens de dire, ça, bon, D'accord.
En tout cas, un bon numéro qui se laisse vraiment bien lire. Vraiment, si vous avez zappé le 22, prenez ce 23. Ça relève vraiment le niveau. Donc, je vais dire un petit bail. Allez, un petit bail. C'est vraiment sympa. On continue avec Indestructible Hulk numéro 15, Valentin.
Oui, donc écrit par Mark Waid et au dessin.
Eh ben, le fail. Bravo.
Et ben voilà ce que c'est de pas préparer ses crédits avant sa review.
Et au dessin, Kim Jacinto.
Donc bien sûr. Retrouve... Bien sûr. On le savait que c'était lui en plus. On voulait pas te le dire.
On retrouve Banner face à l'Over Mega Size Hulk, qui du coup à la fin du numéro s'était pris une nouvelle fois la bombe gamma qui avait fait de Banner Hulk.
Bah, et tu donc, peux l'appeler comme il l'appelle, c'est-à-dire le Uber Hulk.
Oui, le Uber Hulk. Et du coup, on voit aussi Banner qui va essayer de battre les Chrono Archistes. Et donc, pour moi, j'ai vraiment bien aimé parce que on voit que là, pour le coup, c'est vraiment Banner qui fait tout et pas Hulk. Et c'est une chose que Mark Waid a apporté, c'est qu'il y a aussi le côté Banner. Et pour moi, c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas ce que t'en as pensé, Steve.
Mais alors, j'ai pas du tout le même avis que toi, je me suis franchement fait chier, moi. Vraiment. Pour moi, il était grand temps que cet arc s'arrête. Parce que autant il démarrait super bien sur les deux premières parties, que plus ça avançait, plus c'était lourd et chiant. On sait très bien qu'il ne va y avoir quasiment aucune conséquence à cet arc. Et voilà, quatre parties sur un truc qui n'aura aucune conséquence, qui est en plus Aftermath à Age of Ultron, qu'on a tous envie d'oublier. Voilà, franchement, le petit caprice de Banner de « Oh là là, j'avais le moyen de m'échapper de Hulk et malheureusement, il va falloir encore que je me resacrifie. » C'est vu et revu, quoi. Enfin, moi, ça me paraît vu et revu. Là, tu vois, Mark Waid me déçoit sur cet arc. Reste qu'il y aura peut-être un petit changement. C'est ce que l'on voit sur les deux dernières pages. Mais ça me paraît trop peu comme conclusion vu le démarrage de l'arc, en fait. On partait avec monts et merveilles et des possibilités immenses. Tout ça pour faire ça. Et puis alors, la révélation de qui est le vilain, le vrai vilain derrière... Mon dieu, on l'avait pas vu venir depuis le premier épisode. Quoi. Ah,
ça par contre, ouais, c'est vrai que c'est un peu... C'est con, parce que ça c'est pareil, c'est comme toi, je l'avais vu venir à des kilomètres, quoi. Donc ça pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est vrai que les deux premiers épisodes, comme tu dis, étaient bons, parce qu'il y avait du coup l'aspect passé et tout ça. Et c'est vrai que pour le coup, là, il y a... C'est vrai que c'est un peu dommage, mais j'ai bien aimé le côté justement Banner qui fait les choses entre guillemets, que ça soit pas que Hulk.
Oui, non, mais ça je suis d'accord avec toi, ça c'était une bonne idée, mais malheureusement il fait que trop peu. Et franchement, quitte à employer un très bon français, juste aimé qu'il utilise une autre période de. Oui, j'avais envie de faire du subjonctif comme ça. Qu'il utilise une autre période que la création de Hulk.
Juste aimé.
Franchement, trop cliché. Il y avait plein d'autres périodes de Hulk à utiliser. Ce passage où Hulk, notamment par Peter David, c'est les différentes personnalités de Hulk fusionnent. Enfin, il y avait plein de moments clés dans la vie de Hulk qui auraient pu être utilisés. Pour moi, les deux seuls à ne pas utiliser, c'était celle de Future Imperfect et sa création, puisque c'est trop vu et revu. Malheureusement, il est tombé dans ce piège. J'espère que le prochain arc sera plus intéressant, parce que là, du coup, je me suis ennuyé, quoi.
Après, il voulait peut-être faire juste. Il a peut-être choisi cette période justement pour faire son Uber Hulk, quoi.
Ouais, puis alors honnêtement, les dessins n'aident pas. Hein.
Oh, moi je les ai pas spécialement trouvés moches non plus. Ils sont pas terribles, c'est pas du Jim Lee ou quelque chose comme ça, mais je les ai pas trouvés non plus. C'est loin d'un Strowman, quoi.
Ouais, enfin, Strowman. Ça dépend de quel Strowman on parle. Si on parle du récent ou de ce qu'il faisait quand il y a 20 ans, quoi.
Bah, c'est lui qui était sur X-Factor, quoi. Les derniers X-Factor,
le récent. Peter
David.
Ouais, enfin, je pense que c'était du Strowman qui était obligé de se dépêcher pour tenir les délais, même si c'est vrai qu'on a énormément craché dessus. Et Benny s'en rappelle, je crois qu'il a encore perdu 3 degrés de vision qui ne sont jamais revenus depuis. Hein.
Ah, bah, c'était. Je crois Strowman que c'était le premier numéro.
Strowman, depuis que tu les as regardés, toi, tu as perdu 3 degrés de vision qui ne sont jamais revenus.
Oui.
Ouais, c'était des numéros, enfin, ça m'a vraiment. C'était pas. Ça m'a vraiment rebuté de lire X-Factor à cette période-là. Bon, enfin, c'est pas le sujet, mais.
Je me rappellerai toujours de son Darwin.
Oui.
Ça me rend ravi. Bref, moi personnellement, pour ce numéro, je dirais tout juste un check-it. Vraiment déçu et hâte de passer à l'arc suivant. Sachant, enfin, le numéro suivant qui sera un numéro un petit peu seul, et sachant que le prochain arc de Mark Waid, le prochain gros arc, sera tie-in à Inhumanity. Mark Waid qui décidément dans sa série se tape à essayer de lier tous les bouts de continuité qui lui restent.
Ouais. Pas dommage. Moi c'est quand même un check-it plus parce que il y a certains trucs que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que là, j'attends la suite avec impatience et je vais voir ce qu'il va faire avec Inhumanity.
On va continuer avec un autre event en cours, c'est Cataclysm Bruno, c'est le numéro The Ultimates numéro 1.
Et oui, parce que je suis fan de l'univers Ultimate et je suis complétiste. Du coup, je lis tous les numéros de Cataclysm.
Ah bon ?
C'est pour la première fois que tu nous en parles pourtant de l'univers Ultimate, je crois.
Putain, on savait pas du tout. Hein.
Et c'est le début de la mini-série qui concerne cette fois la série Ultimates. Et c'est écrit par Fialkoff avec des dessins de Gian Domenico. C'est la même équipe qui avait fait l'arc Ultimate Disassembled que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est un super numéro, j'ai vraiment pris un pied pas possible en lisant ça. Enfin, voilà, c'est du bon Ultimate, ça. Ça se passe à la fois entre la fin de Hunger et le début de Cataclysm. On se retrouve en Bélarus, où en fait il y a toute une rébellion qui se lance dans le pays, des adorateurs en fait du Galactus Ultimate, une sorte de secte qui est menée par un personnage qu'on avait vu dans la mini-série Ultimate Vision, qui est le Ultimate MODOK. Et ça fait plaisir de revoir ces personnages-là et de voir que Fialkoff a bien retenu la leçon puisqu'il connaît vraiment bien sa continuité Ultimate. Et donc il y a les Ultimates de Nick Fury qui sont envoyés sur place pour essayer de régler tout ça. Et c'était des Ultimates nouvelle génération, une très très belle équipe avec justement Danny Ketch, on a Punisher, on a plein de persos, Hercule et trucs comme ça, c'est plus du tout les Ultimates classiques, et c'est vraiment très très frais, il y a vraiment pas mal d'action, pas mal d'humour.
Je sens et, trop que c'est l'équipe...
Dire que ça va durer que 3 numéros.
Voilà, c'est ça, je sens trop que c'est l'équipe qui va mourir de toute façon, c'est la chair à canon.
Ce serait vraiment dommage. Et puis voilà, puis après, très rapidement, à la moitié du comics, on rentre vraiment dans Cataclysm, il y a vraiment des retournements de situation, il y a beaucoup d'action, et vivement la suite, donc c'est par rapport au numéro de Spider-Man que j'avais chroniqué la semaine dernière, là c'est vraiment vraiment une très très bonne lecture et c'est indispensable pour les gens qui veulent suivre cet événement Cataclysm, donc un gros gros gros, gros bail. Et puis j'aime vraiment beaucoup Gian Domenico au dessin, c'est un peu bizarre au début, ça rebute un petit peu, mais après on se rend compte à quel point c'est dynamique et à quel point c'est vraiment détaillé, et, moi j'adore, donc un gros gros bail.
N'hésitez pas à voir ces Marvel Noirs qu'il avait fait Carmine di Gian Domenico qui sont vraiment somptueux.
Ah oui, tu vois, je connais pas et j'irai regarder. C'était quelle série ?
Si j'avais laissé planer le doute, c'est que je me rappelle plus. Salaud.
Mais il avait pas fait. C'était pas lui qui avait dessiné le Spider-Man Reign qui se passait dans le futur, là ? Non.
Je sais plus.
Ah, je sais
pas. Tu me poses une colle, là. Là, je suis à froid et tu me poses une colle, quoi.
L'Empire, ça s'appelait en français, d'ailleurs. C'était sorti comme ça.
Alors, je vais finir juste en faisant mon maître Capello. Bruno, Bélarus en français, c'est la Bélarussie.
Et oui, c'est ce que j'allais dire.
La Bélarussie, oui. Ah, oui, mais ça, c'est. Tu sais,
non, ouais, parce que c'est son côté dragueur. La Bélarus.
C'est son côté Jean-Claude Van Damme, disons-le.
Ouais. Vas-y, Valentin.
Du coup, moi, ça m'apprend un truc parce que moi, je disais toujours Biélorussie. Donc, je savais pas que ça se disait Bélarussie.
J'ai un doute maintenant.
Oui.
Putain, j'ai un doute maintenant.
Je pense que je crois qu'il a raison.
Je pense qu'il a sûrement raison. Oui, tu as sûrement raison.
Je crois que c'est Biélorussie en français.
Ouais. Il s'est fait troller par le petit jeune.
En fait, ça se trouve, il y a peut-être deux pays. Il y a la Bélarussie et la Biélorussie.
Voilà, tiens.
Dans une réalité alternative, écoutez le Comic City 82.
La Bélarussie.
Le mec, il fait des messages en plus. Donc, tu as dit un bail, Bruno.
Un gros bail. Oui, j'ai adoré.
On va passer à Uncanny X-Men numéro 14 maintenant, Mr. Honeybunny.
Brian Michael Bendis est au scénario, Chris Bacalo au dessin, et c'est un épisode un peu chiant.
Mon dieu, j'ai l'impression d'entendre que ça sur Uncanny X-Men et All New X-Men.
Ouais, là, ça suit les pas d'un élève, l'un des nouveaux élèves, nouveau mutant de Cyclope. J'ai carrément oublié son nom, mais au fait, d'ailleurs, il a pas de nom de code, encore mutant. Mais son pouvoir, au fait, c'est un pouvoir un peu pourri qui fait penser au pouvoir de Morph, sauf que lui, il peut juste prendre l'apparence de quelqu'un, ou en tout cas une apparence proche de la personne, de laquelle, à côté de laquelle il se tient. Donc,
Oh, la mystique au rabais, quoi.
Une sorte de mystique au rabais, mais au fait, en prenant une apparence un peu similaire, il arrive à, comment dire, faire du charme à cette personne, à la draguer un petit peu. C'est genre, par exemple, il se tient à côté de toi, Steve, il va prendre la forme d'une nana que tu vas kiffer, quoi.
Ah,
avec
d'accord.
Les cheveux longs
j'avais,
et de la barbe.
J'avais compris que.
Oui, c'est ça, avec les cheveux longs et de la barbe.
Ta propre apparence, en fait. Et,
oui, c'est-à-dire que en comment dire.
Parce que les gens sont
en s'inspirant de ta.
D'accord,
de ton apparence, il va prendre par exemple l'apparence d'une nana qui pourrait être une nana que physiquement tu.
Ça pourrait être toi, Steve, mais qui est passé par une opération.
Voilà. Voilà.
Qui dit que je ne suis pas déjà allé au Brésil.
Non, mais quand je te dis que c'est un pouvoir de merde. Et
je trouve ça un peu glauque, moi, quand
et
même.
Un peu bizarre.
C'est très Fantomex, quoi.
Et au fait, il y a Emma Frost qui, du coup, l'entraîne et lui fait passer des tests de drague. C'est-à-dire qu'il doit vraiment draguer des gens en prenant une apparence qui plaira à la personne en question. Et voilà. Et voir si
j'ai
ça
envie de dire quel meilleur professeur qu'Emma Frost pour ça, quand même.
Voilà. Et d'ailleurs, Emma Frost se rapproche de lui au début de l'épisode et il prend une apparence.
Pédophilie!
Non, mais attends, il est tout nu, il sort de sa douche. Il prend une apparence à la Emma Frost et ça a l'air de le gêner terriblement. Mais moi, je serais super content de prendre l'apparence d'Emma Frost. Tu vois, après, t'as juste à te regarder dans une glace et tu fais Hey!
Ta journée à toucher tes seins et tout.
Mais oui, c'est. Attends, c'est une expérience. Enfin
mais
voilà.
Mais grave que c'est une expérience.
Puis au fait, tout ça, c'est dans un but bien précis. Au fait, je me rends compte en résumant
Couché.
Cet épisode, en résumant cet épisode que finalement c'était quand même pas si mal que ça.
Comme quoi, des fois, un second regard.
Non, mais enfin bon, c'est-à-dire que c'est tellement bizarre comme idée. En fait, moi, je me suis surtout fait chier parce que j'aime pas ces nouveaux personnages. Je les trouve. Un peu chiant, ces nouveaux mutants, et puis justement, leurs pouvoirs sont tellement mal définis entre celui qui fait des espèces de miel pops, là, qui sortent de son cul, et puis lui, tu sais, qui est pas tout à fait morphe, qui est pas tout à fait mystique, mais vas-y, je prends une apparence correspondante à la personne qui est à côté de moi. Ouais, ok, d'accord, en fait, tu savais pas trop quoi faire, et il restait plus trop de pouvoirs disponibles, donc voilà, t'as des pouvoirs tout pourris, mec. Bon, voilà, c'est franchement, on peut zapper cet épisode. C'est pas forcément un épisode très utile.
Cependant, déjà, en y repensant, tu l'as trouvé un peu plus drôle.
Bah ouais, un peu plus drôle. C'est vrai qu'en le résumant, c'est tellement bizarre en fait. Et puis Emma Frost. Allez, je vais être sympa, je vais mettre un bail moins. Tu vois, j'avais mis un check-it à la base. Je vais mettre un bail moins parce que c'est vrai que c'est tellement des idées bizarres par rapport à ce personnage. J'attends de voir ce qu'ils vont faire de ce perso, quoi. Mais bon, voilà. Après, Bendis retombe toujours un petit peu dans ses travers. Bon, on a toujours le droit au dialogue à la Bendis.
Et oui, ses travers de porc, bien évidemment.
sachant qu'il est juif,
oh, c'est
très bien en plus. Tu très bonne vanne, bravo. Bon, enfin bref. Donc,
je me marre tout seul tellement c'est vraiment pitoyable.
Voilà, donc non mais très bonne, enfin très bonne, n'importe quoi, épisode,
très bonne vanne,
épisode, ouais, très bonne vanne, épisode, voilà, assez spécial quoi.
Ok, on va passer à la suite, c'est Valentin qui va nous parler du Superior Spider-Man Annual numéro 1.
Oui, écrit par Christos Gage et dessiné par Javier Rodriguez, donc on va retrouver le personnage de Blackout. Un ancien ennemi de Danny Ketch, le deuxième Ghost Rider, qui va enlever.
Décidément à l'honneur cette semaine, hein, quand même. Hein. On n'en avait pas entendu parler depuis 15 ans, et là, d'un seul coup, Ultimates plus Superior Spider-Man Annual.
Et du coup, il va enlever May Parker pour faire du chantage à Peter pour qu'il sabote tout l'équipement de Spider-Man, comme tout le monde sait que Peter bosse avec Spider-Man pour faire sa toile, ses robots, etc.
Ils sont cons les gens quand même, hein, quand tu te dis ça. De même pas se rendre compte que, en fait, bon bref, c'est l'univers Marvel, faut pas chercher.
Mais là surtout ce qui change, c'est que c'est pas Peter, c'est Otto. Et du coup, Otto va mal prendre qu'on s'en prend à la famille. Et du coup, il va un peu chercher à défoncer Bloodshot. Donc l'annual est vraiment très très bon, niveau dessin et niveau écriture, ça se voit que c'est Christos Gage, Et du coup, il y a un petit twist à la fin. Si Dan Slott leur prend ce que j'espère, ça peut amener de bonnes choses. Donc c'est un bon bail pour moi. Et du coup, je vais passer à Superior Spider-Man Team-Up pour rester dans le teaser. Donc écrit par Chris Yost et dessiné par Marco Cicchetto. Donc là, on retrouve Spider-Man avec ses Superior Six qui va avoir affaire au Master of Evil, composé du Waking Crew, d'Absorbing Man, de Titania, de l'ancien Blackout. Enfin, ils vont essayer de récupérer du coup le Quantum Particle Engine d'Alchemax.
En français, s'il te plaît. Faut nous prévenir quand tu commences à parler latin comme ça.
L'engin à particules quantiques, qui a été volé du coup par à la base que Spider-Man a maintenant, qui devait être pris par le Wrecking Crew pour le Lightmaster. Mm-hmm. Et donc on a aussi les origines du coup.
Oh là là, trop de personnages de niveau Z là, on comprend plus.
Bah, je vais en rajouter un en plus.
Si le Lightmaster, je crois que c'était celui qui ressemblait à un soleil, qui apparaît dans les premiers épisodes de Spectacular Spider-Man dans les années 70.
Il a un pouvoir du coup sur la lumière. Et du coup, je vais rajouter un personnage, c'est Sun Girl, où on voit les origines, et dont Christopher Yost donc écrit les origines. Il va l'avoir aussi dans la nouvelle série New Warriors. Donc on voit ses origines, on voit qu'elle est, elle est reliée à un vilain. Je dirais pas qui c'est pour pas spoiler, mais vous pouvez facilement comprendre. Et du coup, c'est pareil, c'est une bonne petite lecture. Et on voit le twist à la fin qui peut être pas mal. Surtout qu'on voit qui reste, ça peut être pas mal. Donc pour moi, les deux lectures là de Superior Spider-Man, ça change de Dan Slott, qui écrit bien, mais ça change que ce soit d'autres personnes sur le personnage. Donc bah, pour la Noël, j'ai lui, c'est un bail, et puis bah, pour le team-up, c'est un check-it plus.
Ok, ben, moi j'avais envie de lire l'annual, mais bon, enfin le sujet m'a un petit peu rebuté, ce personnage de Bloodshot m'intéressait pas tellement, donc j'ai laissé tomber. C'est Bloodshot.
Et ta promesse de ne pas lire de Superior Spider-Man.
Ouais, non, mais attends, et surtout écrit par Dan Slott, quoi. Ouais, quand c'est écrit gage, par d'autres...
Un gage, Benny. Hein.
Ouais.
T'as ouais. eu envie, là, un gage. Hein.
Là, tu peux
c'est
y aller.
C'est comme quand
vraiment...
tu fais tomber ton morceau de viande au fond de la fondue, hein. C'est un gage.
Là, tu peux y aller, franchement.
La dernière fois que ça m'est arrivé, mes potes m'ont foutu carrément la tête dans la fondue, hein.
Donc, ouais, là, tu peux y aller, Benny. C'est vraiment du très bon gage.
Ah, tu viens tout nu à la PCE, hein, Benny.
Avec la tête dans un pot à fond de chiche.
Ça va être un très bon cosplay, je pense.
Fond du man. Donc deux bails pour ces Superior Spider-Man.
Non, un bail et un check-it plus, parce que le team-up, bah, c'est un peu une série de seconde zone. Donc si les gens préfèrent acheter du Avengers ou des choses comme ça, s'ils ont un budget limité, c'est un check-it plus. Mais si vous avez les moyens, prenez-le, c'est un bon bail.
On va terminer notre séquence de review de cette semaine avec le Fantastic Four numéro 14, Mister Unebony.
Et oui, alors un Fantastic Four numéro 14 par Matt Fraction, mais pas que au fait, le petit Matt Fraction est trop occupé dernièrement avec Infinity qui arrive. Non, pas Infinity.
Inhumanity.
Inhumanity.
Infinity se termine bientôt.
Oui, voilà. Donc il est aidé au scénario fortement par Carl Kaisel et c'est plus, comment s'appelait-il
Bagley.
Bagley, bien entendu, au dessin, mais Raffaele Ienco, que je ne connaissais pas. Enfin, en tout cas, je ne l'avais pas remarqué auparavant.
Ienco ne connaissait pas.
Oh putain!
Que je ne connaissais pas, non?
Elle, c'est le podcast de la mort ce soir, c'est
ouais.
incroyable.
Ouais,
on sent que c'est le quatrième enregistrement de la semaine qu'on a
fait. Ah, mais
je
suis à la deuxième bouteille de Beaujolais là.
Ah, bah oui, ouais. Bah oui, ça explique beaucoup de choses aussi.
Et donc, bah, aussi bien du point de vue du scénario qui est très 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 classique que des dessins qui n'ont rien d'extraordinaire. C'est pas génial. Alors déjà, Fraction, il a un petit peu laissé tomber l'univers des 4 Fantastiques, puisque même FF, c'est un petit peu la famille Allred qui s'amuse dessus en ce moment. Ce qui est pas plus mal, hein. Le titre FF reste toujours très bon.
C'est vrai que Fraction, ça divise. Voilà.
Et c'était ma vanne, ça.
Ouais. Tu voulais le faire, désolé.
Mais non, mais attends, je l'ai sorti il y a déjà 4 ou 5 épisodes.
Oh, mais non, mais prends encore un verre, Bruno.
D'accord.
S'il te plaît. Peut-être qu'avec un peu de chance, les vannes seront meilleures après. Non, mais alors le scénario, c'est toujours
les vannes du Beaujolais. Ouais.
C'est vraiment toujours le scénario sur lequel on est depuis le début du relaunch des Fantastic Four. Donc les Fantastic Four perdent leur pouvoir, ils essayent d'empêcher ça. Ils essayent aussi d'empêcher au fait cette espèce d'alliance entre Annihilus, voilà, je cherchais son nom, Kang et Doom. Et ce qui leur arrive là est assez classique. Il y a l'un des membres de l'équipe qui est vraiment mis à mal. Il rencontre une autre version des quatre fantastiques. Il y a une espèce de scission dans le groupe entre Kang et Dr. Doom. Mais enfin, il n'y a rien vraiment d'excitant et rien de novateur, quoi. C'est vraiment l'histoire la plus classique du monde à faire sur les quatre fantastiques. C'est un peu dommage. Je sens bien que Matt Fraction, de toute façon, depuis le début de Fantastic Four, a un petit peu ce titre qu'il traîne comme un boulet. Au fait, il avait pas envie d'écrire les 4 Fantastiques. Il voulait écrire FF avec l'équipe, avec Medusa et les autres. Scott Lang, etc. Il avait vraiment envie d'écrire ses personnages et de s'amuser avec. Et en plus, maintenant, il a même plus le temps puisqu'avec Inhumanity, il est trop occupé. Donc, il laisse la conclusion à d'autres auteurs.
Je pense
que
s'il avait vraiment aimé cette série, il aurait trouvé le temps de l'écrire correctement, quoi. Enfin, en tout cas, de s'y consacrer vraiment.
Ouais. Non, mais on sent depuis le début qu'il est pas motivé du tout. C'est très plan-plan. Franchement, il s'est rien passé quasiment en une vingtaine d'épisodes. Là, on en est à l'épisode 16 quand même. Voilà, il se passe pas grand-chose.
16, j'ai annoncé 14, moi.
14, oui, 14, excuse-moi. Oui, ça,
le
ça
16,
va s'arrêter.
Je crois que c'est le dernier.
Ouais,
le dernier,
ça s'arrêtera au 16. Donc voilà, en 16 épisodes, à moins qu'il se passe des choses extraordinaires dans les deux dernières parties. Mais
t'y crois ?
Non, mais j'y crois pas tellement. Donc, en fait, c'est vraiment
le titre est relaunché derrière. Donc.
Un run de 16 épisodes qu'on peut quasiment zapper et ne lire que FF, qui était très bon. Mais voilà, donc je trouve ça vraiment dommage. Du coup, juste un petit check-it. J'ai vraiment regardé cet épisode pour savoir comment il allait conclure un petit peu les Fantastic Four, mais rien de neuf sous le soleil. Ou à l'autre bout de la galaxie, j'ai envie de dire.
Ou dans un univers parallèle.
Ou dans un univers parallèle, ou même dans ton slip, mais ça...
qui est un univers parallèle à lui tout seul.
Ouais, qui est un microcosme...
non, mais c'est qu'il faut une poche de vide interdimensionnelle pour pouvoir le mettre, sinon ça ne rentre pas. Voilà. Merci, j'ai fini correctement.
Ça conclut les reviews.
Ces reviews. On va maintenant, bien sûr, passer à notre partie TPB comme chaque semaine et on commence avec du Dark Horse.
La partie t'es pas beau.
Voilà, je pourrais.
J'avais jamais fait cette vanne, je me dis.
Non,
c'est pas
non mais je crois que je pourrais pas la faire en fait cette fois-ci.
Je voudrais le t'es pas beau de Fantastic Four, si vous voulez.
Oh, ça va être dur de repartir, putain. Magnus de Robot Fighter, volume 2, les archives de chez Dark Horse, pour retrouver ses anciens épisodes qui datent de l'époque Gold Key, donc des années 60, avec du Ross Manning, notamment très connu pour ses strips de Tarzan et de Star Wars. C'est un petit peu le Tarzan du futur, hein, ce Magnus Robot Fighter, personnage qui a été ensuite récupéré par Valiant, et je vous renvoie là cette fois-ci à une autre auto-promo, c'est le Comic City spécial Valiant, avec sa bibliothèque.
Ôte-moi d'un doute, pour le moment ce personnage n'a pas été réutilisé dans le nouvel univers Valiant.
Non, ils n'ont plus les droits. Par DC, je crois. Non, pas par DC. Ils avaient été récupérés par une boîte qui n'en a rien fait, en fait. Bah si, Dark Horse, finalement, ils ont sorti.
Ah oui, c'est ce que j'ai
arrêté en 8 épisodes. Ça s'est arrêté en 8 épisodes.
D'accord. Oui.
Tout simplement. Mm. Comme les autres séries de Gold Key, dont je ne retrouve plus les noms actuellement, bien sûr. C'est toujours comment tu cherches quelque chose que tu ne le trouves pas. C'était Dr. Solar, Man of the Atom, et puis Turok.
Turok, voilà. Ces fameux titres qui vont revenir bientôt.
Oui,
on en avait parlé dans un Weekly News, ils vont être relaunchés.
Il y a Turok et il y a Turap aussi.
Oh, mais c'est quoi cette émission, hein? Qu'est-ce que c'est que cette émission? Alors, ce Magnus Robot Fighter 4080 Archives Volume 2 TPB, voilà le nom complet, est au prix de $20. Ça va beaucoup plus vite à dire que dire le nom. Oui, il fallait que j'essaye de terminer sur une vanne qui était vraiment nulle, mais tant pis. Il y a que le mec bourré qui rigole, hein, vous remarquerez. On continue avec du DC. World's Finest TPB volume 2 sort cette semaine, la version TP, hein, qui était déjà sortie en hardcover, si ma mémoire est bonne, Bruno.
Non, ça passe, ça sort directement en TPB. C'est pas une grosse grosse série DC. Mais voilà.
Vous avez
mais
des épisodes cool. 6 à 12, c'est du Paul Levitz et Kevin Maguire au dessin, ainsi que Barry Kitson. Ça vaut $15. Continuons avec Vertigo maintenant. Sort un graphic novel de chez Ferrust, enfin non, en tout cas qui se classe dans l'univers de Ferrust, s'appelle In Old Land. Ça vaut $23 par Bill Wingham, bien sûr. Chris Prouse au dessin et Adam Hughes à la cover. Chris Prouse qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment de mémoire.
Ouais.
Ah, j'ai eu peur que tu me dises non, l'a vu le mois dernier et que je me prenne encore un fail depuis pour cette fin d'émission.
Non, mais il fait des backups sur chez DC dans Action Comics de temps en temps. Oui.
Eh bien voilà, autre fail donc.
Et puis il fait aussi Tom Song en ce moment, je crois.
Oh putain.
rajoute-en, casse-lui encore son moral. T'as vu, c'est vraiment la rubrique t'es pas beau au fait. T'es pas bon non plus.
Non, c'est vraiment je suis pas bon du tout. Oui. Eh bien, on va continuer avec du IDW maintenant. Mars Attacks, The Human Condition, TPB, qui donc bien sûr hein, du souple pour $18. C'est une mini de Mars Attacks, bien sûr, mais qui a le mérite d'être dessinée et scénarisée par Fred M. Beck, qu'on avait pu voir sur pas mal de projets parodiques de chez Marvel dans les années 80, notamment.
Oui, d'accord, oui.
Continuons avec du Image. Nowhere Man TPB volume 1 sort cette semaine au prix de $10, qui reprend les 6 premiers épisodes de la série à ne pas manquer.
Ah oui, vraiment. Alors ça c'est pas cher, c'est $10, c'est fat, parce que c'était des numéros qui faisaient 30 pages à chaque fois.
Et puis en donc plus avec un maximum de lecture, parce que vous avez des pages complètes de journal à lire.
Ah non, c'est chambé, donc
comment il est in, Bruno? Il fait, ouais, c'est fat.
Non mais voilà, Bruno qui a vu, c'est fat, c'est chambé. La vieille vanne en plus. Ça y est, on a perdu Bruno. Non, voilà, vraiment Nowhere Man, une série écrite par Eric Stevenson avec des dessins de Nate Bellegarde. C'est au prix de $10, vraiment ne le ratez pas. Je sais pas si ça a déjà été acheté en français.
Ben, je ne crois pas, en tout cas, on n'a pas vu d'infos là-dessus et c'est vraiment un titre excellent. Donc allez-y.
Qui sort bien sûr dans la gamme Shadowline chez Image. Autre produit de chez Image, j'en parle chaque année, c'est ma petite marotte, ça revient, s'appelle The Last Christmas, qui ressort en hardcover pour cette période de Noël. C'est scénarisé par Gary Dugan et accompagné de Brian Posehn, notamment. Des gens qui ont le vent en poupe actuellement puisqu'ils travaillent sur Deadpool, et Gary Dugan va bientôt passer sur Nova. C'est dessiné par Rick Remender, car on oublie trop souvent que c'est un dessinateur, avec une cover de Jeff Darrow. C'est au prix de $25, c'est un hardcover, c'était une mini en 5. On avait du Tony Moore aussi, hein, je crois, qui avait fait des covers à l'époque.
Mais t'avais fait un article là-dessus, il me semble.
Et j'avais fait un article là-dessus, effectivement, qui remonte au tout début du site. C'était au mois de décembre 2008. Donc une petite recherche et vous pourrez avoir une review sur cette mini-série. Mini-série où le Père Noël désabusé décide d'arrêter d'amener des cadeaux aux enfants. Et puis finalement, une attaque de zombies l'oblige à sortir de son pôle nord et à aller péter la gueule aux zombies à grands coups de flingue. Voilà.
Ah, c'est tellement bon ce pitch.
C'est simple, c'est efficace et c'est franchement très sympa. On se marre énormément. Le pauvre Père Noël qui perd tous ses lutins. Enfin bref, je vous encourage vivement à aller lire cette série. Toujours chez Image cette semaine, on a la sortie du 4e hardcover de Mice Templar, une série de Brian J. Elglas avec des dessins de Michael Avenoming. C'est au prix de $30. Non, pardon, Michael Avenoming ne fait que les covers. Putain, c'est vraiment le failland ce soir, le TPB. Victor Santos qui dessine. On va terminer avec du Marvel Amazing Spider-Man Epic Collection TPB Cosmic Adventures.
Quel programme. Donne envie.
Et oui, ce sont les aventures cosmiques de Spider-Man avec les Amazing Spider-Man 326 à 333, l'annual numéro 24. Spectacular Spider-Man 158 à 160 et l'annual 10. Web of Spider-Man 59 à 61 et l'annual numéro 6. C'était l'époque Spider-Man Captain Universe, si ma mémoire est bonne.
Peut-être.
On va pas t'aider là.
Mais je, non, en fait, ma mémoire est très bonne et elle marche très bien et je sais que c'est ça.
Donc Captain Universe, en plus, un concept qui est revenu à la mode récemment grâce à voilà. Jonathan Hickman.
Comment faire, comment faire quand on est Spider-Man, qu'on a ce grand sens des responsabilités, mais qu'on retrouve un pouvoir cosmique illimité?
Ouais, alors voilà. Je suis désolé, hein, Jonathan Hickman, on l'a pas attendu, c'est revenu à la mode dans les pages de des séries Guardians of the Galaxy par comment il s'appelle, Andy Lanning,
Dan Abnett
et Andy Lanning surtout, puisque le personnage, rappelle-toi Steve, on avait lu ça dans Marvel Universe.
Oui, entre autres. Alors vous retrouverez au niveau des crédits du David Michelini, du Jerry Conway, du Eric Larsen, du Sal Buscema, du Alex Saviuk. Voilà, des noms qui ont une résonance toute particulière pour nous vieux nostalgiques.
Ouais, non mais c'est clairement effectivement cette période que je reconnais bien maintenant, effectivement. Ouais.
Et tous ces numéros, hein, parce qu'il y en a quand même pas loin d'une petite vingtaine, c'est au prix de $40. Voilà, c'est un gros TP hein, en revanche. Et c'est tout pour notre partie TP de la semaine. Pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. Des bonnes petites trouvailles, mais pas grand chose. Et puis même pas de grosses idées de cadeaux de Noël cette semaine. J'ai rien trouvé de vraiment particulièrement emballant.
Mais pour des cadeaux, c'est pas bien de pas être emballé.
Oh putain. Oh.
Elle est pas mal.
Oui, non, quand t'as dit pour des cadeaux, j'ai compris tout de suite où t'allais. Et j'avais pas vu que je pouvais déraper comme ça.
Il y a juste un truc ici qui est pas mal, qui est The Fifth Beatles, mais bon, tu t'en fous, toi. Et c'est sorti en VF et en VO en même temps, ce qui est intéressant à noter. C'est sorti chez Dargo en VF.
Dargo, c'est vrai, on n'en parle pas souvent.
Voilà, qui fait aussi un peu de comics de temps en temps, et c'est vraiment un très beau graphic novel que j'ai acheté et qui revient sur l'histoire du producteur des Beatles. Et non, c'est vraiment très beau, c'est un bel objet.
Oui,
qui est pas
vrai.
Très cher, qui est à $20.
C'est vrai que je ne l'ai pas mis tout simplement parce que je n'aime pas les Beatles et donc je les ai.
Je sais, c'est pour ça que je précise.
Non mais tu as tout à fait raison de le préciser. Je l'avais zappé et par contre je n'étais pas au courant pour cette sortie VF simultanée et c'est.
Ouais, non,
très bonne
c'est
chose.
Même sorti 3 jours avant en français, donc c'est bien.
Comme quoi, il n'y a pas que les films qui sortent en avance par rapport aux États-Unis.
Tout à fait.
Eh bien, on se quitte sur ce podcast totalement foireux.
Ouais.
moi, je trouvais bien ce soir, tu vois.
On s'est bien marré.
Ouais.
Allez, reprends un petit coup de Beaujolais.
Non, merci. Vraiment pas. Le Beaujolais, je ne veux plus le voir. Je n'en peux plus de cette salope. Bref, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec la fin du mois de novembre. Encore quelques grosses sorties pour terminer ce mois. Et puis, vous aurez, comme d'habitude, le Weekly News en début de semaine avec un petit récapitulatif de la PCE, puisque, messieurs, vous y serez.
Tout à fait.
Théoriquement, on sera en force. Si tout se passe bien.
S'il n'y a pas d'apocalypse de zombies d'ici là, bien sûr.
Et vous pourrez voir Fondumane en exclusif.
Ouais. Et on sera heureux de pouvoir discuter avec vous. Tout à fait.
Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter. D'ici la prochaine émission, vous retrouvez sur le site tous les articles, bien sûr, mais aussi toutes les anciennes émissions que vous pouvez aussi retrouver sur iTunes. Et puis, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Merci à vous. Bon week-end de PCE. Éclatez-vous comme des petits foufous. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt.
Salut à tous
les gens.
Salut les enfants.